Je me souviens bien de ce matin-là. Ils étaient venus me voir dans mon bureau à la tour de la milice de notre chère capitale. C'était la veille du jour où notre roi Client Ier a été assassiné par sa fille dans la cour intérieure du château. Bref, ce mec et cette nana avaient une allure bizarre. Néanmoins, on me paye pour faire ce sale boulot d'enquêteur, alors autant mériter de pouvoir hausser mon cholestérol en fin de mois. J'acceptais donc leur affaire, même si je devinais que la journée allait être longue.
Je me nomme Binocle, et elle, c'est...
Soufflade, avec deux F. Nous sommes tous les deux des mutants professionnels.
Encore une de ces professions New Wave, sans doute. Je préférais ne pas encombrer mon esprit de ces détails et d'aller directement à l'essentiel.
Et vous me disiez donc que vous avez assisté à un meurtre.
Oui, c'était horrible. Une créature monstrueuse, mais complètement invisible, a sauvagement assassiné notre maître, le professeur Carlos Ravnier, en lui explosant le ventre.
Pauvre professeur, qu'allons-nous devenir sans lui?
Dans un premier temps, des chômeurs, ça c'est déjà sûr.
J'adorais dessiner des smileys sur le sommet de son crâne chauve pendant qu'il dormait.
Certes, ces deux échappés de cirque dont les goûts vestimentaires tordus restaient pourtant inexplicablement dans la légalité me tapaient sur le système. Néanmoins, leur histoire commençait à m'intéresser. La mort étrange et soudaine qu'ils m'avaient décrite m'interpellait. Plusieurs honnêtes gens avaient été tués de la même façon ces derniers jours. Seul un adolescent avait survécu, un jeune délinquant que la créature invisible avait blessé au pinacle des cuisses plutôt qu'au niveau de l'abdomen, comme à son habitude. L'enquête sur cette série d'incidents ne m'avait pas été confiée, elle avait été attribuée à Barnabé, un jeune stagiaire, mais vu sa façon de travailler des plus... inefficaces, je décidai d'explorer cette nouvelle piste personnellement. Y avait-il d'autres personnes sur place à part vous et votre ami? D'autres témoins?
Il y avait aussi un vieux barbu qui vit dans ce bois, là, dans l'ancienne cabane du pêcheur, là où la rivière dessine une boucle. Là, on vous a dit que ça s'est passé, donc.
Oui, voilà, un vieux druide, mangeur de petites filles de son propre aveu. Donc pas une grande perte en ce qui le concerne, hein.
Je ne juge pas, monsieur. Continuez.
Oui, donc, la créature invisible a aussi tué le druide d'une façon mystérieuse, presque exactement comme elle l'a fait juste après sur le professeur.
Tout à fait, à l'aide d'une puissante force, elle aussi invisible, c'était terrifiant.
Ouais, voilà, terrifiant.
Vous n'avez donc pas idée du procédé qui a été utilisé pour oxyre ces deux personnes?
Bah non, on vous l'a dit.
Je peux juste vous dire que ça ressemblait à tout sauf à un coup d'œil laser dans le ventre de l'un des deux.
C'est comme si une force avait fendu l'air pour traverser notre maître de part en part. Oh, et on a entendu un genre de détonation pile au moment où ça arrivait.
Ouais, c'est vrai, je m'en souviens maintenant.
Je terminais de noter tous ces détails, puis j'invitais les deux mutants à rester en ville et à disposition de la milice pour les jours à venir. Je pris ensuite deux hommes avec moi et nous mîmes en route pour le coin de forêt qu'on m'avait décrit. Je ne sais pas quelle est cette créature invisible ou même à quel dessein elle s'acharne ainsi à trucider de pauvres citoyens comme du vulgaire gibier, mais j'espérais bien trouver sur place la réponse à toutes ces questions.
Vous l'aurez compris, merveilleux auditeur, nous nous trouvons à présent à l'époque de la Genèse, soit, pour vous aider à vous situer, 10 ans avant l'incident des carottes de Samuel, mais aussi 19 ans après les événements retracés dans la page précédente, hein, donc au niveau de la préface, tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que j'ai mis en ligne et à votre disposition, dans les suppléments de mon site web, une magnifique ligne du temps qui pourra sans nul doute vous aider à vous situer parmi tous ces événements fascinants. Hein. Mais bref... Cela fait donc 19 années que nos deux garçons, Gontran et Kevin, sont arrivés en la ville capitale de notre cher royaume. Et j'imagine votre impatience, vous qui m'écoutez, oui, car c'est un peu là tout le suspense de cette histoire. Je vous sais à coup sûr en train de boire mes paroles dans l'attente de cette merveilleuse révélation. Le mystérieux sobre établissement devant lequel les enfants avaient atterri en sortant des égouts avait-il bien été le commerce de l'oncle de Kevin? Ce dernier a-t-il bien voulu recueillir les deux enfants? Et y avait-il seulement un oncle dans cet établissement? Kevin était-il fiable ou avait-il tout inventé? Ça prend aux tripes, hein, une histoire pareille. Aussi, ne tardons pas plus à en découvrir la merveilleuse suite. Au soir de leur arrivée en ville et devant l'établissement susmentionné, les garçonnets avaient frappé à la porte. Après quelques secondes de silence, une voix leur avait répondu.
«
on est fermé, revenez demain matin.
Mais Toto, c'est yo moi Kevin. J'ai viendu pour te voir avec un copain, on peut entrer, t'es. C'est que, il fait nuit ici dehors.
Il fait aussi nuit ici dedans, tu sais. Et puis on est fermé, donc ça veut dire que la porte peut pas bouger avant demain matin.
Ah bah ouais, t'as raison, t'es, j'en viens au point pensé.
Dis, Kevin, vous vous fichez de moi là? Il va pas nous ouvrir?
Gautran, t'es, faut être logique un peu, hein. Si son magasin il est fermé, eh ben il peut pas l'ouvrir, mon oncle, hein. Si ça ouvre qu'au matin, comment tu veux qu'il fasse en pleine nuit, hein? Puis comme il a dit, c'est la nuit dedans sa maison aussi, alors bon, hein, ça change rien pour nous d'aller dans du pas d'or, hein. Il y fait pas jour, hein, gros malin.
Ouais, ça c'est mon Kevin, il comprend vite.
Je sens que je vais regretter la forêt. Bon, ben on va dormir sur le banc là-bas alors, hein.
Malgré les différences culturelles auxquelles peuvent se heurter les Kevin et l'humanité en général, l'oncle citadin n'avait néanmoins pas été un mauvais bougre. Dès l'aube, il avait fait entrer les deux jeunes enfants et accepté de les recueillir. Se faisant vieux, le dit tonton avait alors justement dans l'idée, à cette époque, hein, d'engager un ou deux apprentis afin de l'aider dans son travail quotidien, et quelle meilleure façon pour Kevin et Gontran de mériter leur hébergement qu'en se rendant utile, Et c'est ainsi donc que les deux jeunes garçons grandirent et devinrent compétents dans le métier que leur enseigna avec passion le vieil oncle Kevin, jusqu'à son trépas quelques années après. Ainsi, au terme des 19 années évoquées tout à l'heure et qui nous mènent au présent de la Genèse, les deux garçonnets devenus hommes sont depuis longtemps propriétaires de l'établissement de l'oncle Kevin, devenus de fait associés dans un commerce florissant, lequel était en fait, cela va enfin être dévoilé... un funérarium.
Bien que Kevin et Gontran soient maintenant adultes, nous leur laisserons pour la scène suivante leur voix de petits puceaux afin de simplifier la reconnaissance des personnages.
Gontran, avant de commencer ta scène d'exposition, tu pourrais passer les cartes si tu veux bien.
Oui. Tiens.
Merci.
Bon alors, j'y vais.
Ouais, je t'en prie.
Ça fait plaisir, mon vieux Kevin. Je suis heureux de voir le chemin que tu as accompli. Le petit paysan illettré que tu fus jadis paraît bien lointain aujourd'hui.
Dis, tu vas me la ressortir encore souvent, celle-là, t'es. C'est beau, hein? Tu m'as appris à lire et je me suis cultivé depuis les années. On va pas en faire une célébration quotidienne, hein?
Et c'est d'ailleurs ton oncle qui a insisté. Il en avait marre que des clients retrouvent des couronnes à mon bien-aimé mari sur le cercueil de leur petite fille ou des mères regrettées à côté de vieux soldats décédés.
Ouais, on dit, ça va, hein? Et dis, pour changer de sujet, au fait, j'ai terminé de lire les contes de Luca Cole hier soir.
Alors, ça t'a plu?
Bon, j'ai bien aimé la légende du vieux mage du sommet qui exauce des vœux. Ça fait envie.
Ouais, d'ailleurs, certains prétendent qu'il existe réellement. Mais je suis trop peu crédule pour gober ces balivernes, hein. Bah, tu ne dis pas nu?
Ah ben, toi, ton dentiste, il doit beaucoup t'aimer, hein.
Mais je rigole.
Bref, t'aurais pas un autre livre pour tuer le temps pendant mes pauses cacades?
Ah, je n'ai pas d'autres livres de contes, hélas.
T'as quoi d'autre?
Oh, il me reste que des romans et des encyclopédies, hein. Aussi, oui, c'est vrai, quelques recueils de magie noire et d'ésotérisme que j'ai trouvé en brocante.
Et pendant ce temps, à bien des lieux de là, dans un bout de forêt longeant une petite rivière...
Les deux zigotos de ce matin ne m'avaient pas menti. Les deux corps dont ils m'avaient parlé se trouvaient bien à l'endroit mentionné, même si, naturellement, les carcasses concernées avaient perdu en fraîcheur ce qu'elles avaient gagné en attrait pour les insectes charognards. J'examinais le corps du professeur, encore ses fichues marques, toujours les mêmes, une multitude de petits trous dans la chair. Quel genre d'animal pouvait donc laisser pareille marque?
Il a peut-être été tué par un hérisson, chef, qui se serait mis en boule et qui aurait sauté sur son ventre, non?
Je décidai de joindre l'utile à l'utile et d'envoyer cet agent à la morgue de la milice, autant pour éloigner sa bêtise de ma concentration que pour qu'il y transporte le corps de Carlus Ravier pour de plus amples examens ultérieurs. Je me penchai ensuite sur le cadavre du vieil enchanteur, lequel gisait un peu plus loin parmi de chétifs pousses de fraisiers sauvages. Sa blessure était étrange, un seul trou, large, et ses contours semblaient comme cautérisés. Sans doute l'enchanteur s'était-il défendu à coups de sortilège, obligeant le monstre à intensifier ses attaques, d'où ce résultat. Cependant, le vieillard n'était pas l'objet direct de la plainte qui m'avait mené ici, et je ne jugeais pas utile de lui faire rejoindre aussi la morgue. Cette vague de meurtres étranges, d'ailleurs, l'avait suffisamment peuplé comme ça. J'envoyais donc mon deuxième larbin apporter cette dépouille au funérarium Kevin, en ville, des fois que de la famille viendrait l'y réclamer. N'ayant pas trouvé d'indices ou de traces probantes dans les environs, je pris la peine d'aller inspecter la cabane du vieux druide un peu plus loin. À ma grande surprise, il s'avéra que le vieil homme ne vivait pas seul. Je rencontrai à l'intérieur de la cabane une étrange fillette aux cheveux noirs. Elle était manifestement hystérique, mais les pisseuses le sont souvent. Le métier m'aura appris ça.
Allez-vous-en, sinon je vous brise tous les os en claquant des doigts. D'ailleurs, je le fais. Ouais bon, j'y arrive pas encore, merde.
La môme était manifestement encore sous le choc de la mort du vieux Berlu. Quel qu'ait pu être le lien qui les unissait, familiaux ou non. Mais je ne pouvais en tout cas pas laisser cette fillette de 9 ans seule au milieu des bois, alors qu'une créature meurtrière y rôdait. Je la saisis donc par le bras pour la ramener hors du bois, mais la mioche se débattit, s'échappa et sortit de la cabane pour disparaître rapidement parmi les arbres. L'on pourrait juger cela critiquable, mais je ne me lançais pas à sa poursuite. Le temps était compté, je me devais de résoudre au plus vite l'affaire du monstre invisible afin d'éviter de nombreuses nouvelles victimes. Et je n'avais pas le temps de crapahuter dans la forêt pendant des heures. Une fois rentré, j'enverrai simplement des gens pour récupérer la fillette et la placer dans un orphelinat, ça irait bien comme ça. Sur cette pensée, je fis demi-tour. Et alors que je quittais la forêt pour m'en retourner au donjon de la milice, il m'arriva une chose que j'aurais pourtant dû voir venir. Lorsqu'on se met à la poursuite du mal absolu, et qui plus est pour le contrer, il faut être aussi naïf qu'une jeune nudiste dans une caserne pour penser en repartir sans boiter. Et je dois admettre que j'ai été cette jeune nudiste sur ce coup. À peine sortis-je du bois que la créature invisible m'envoya un douloureux avertissement au niveau de l'estomac.
Charles !
Désolé, papa. J'ai pris ce gros type poilu pour un ours. C'est pas facile d'être certain à cette distance, non ?
Je fus emmené à la clinique après que des passants m'eurent trouvé là, gisant dans le jus de mes intestins qui aurait pu faire une superbe passoire vu leur état. Dans mon lit d'hôpital, j'appris quelques jours après qu'on m'avait mis à la retraite en raison de la gravité de ma blessure. Outre cela, on m'avait remplacé à la capitainerie de la milice de la capitale par un certain Von Pruten, un jeune pistonné placé à mon poste par le nouveau régent. J'ai revu le stagiaire Branabé quelque temps après ça. Cet andouille m'a dit que l'enquête sur la créature invisible avait été abandonnée. La récente disparition du roi ayant copieusement mobilisé les troupes, l'affaire n'avait plus été jugée prioritaire. Soit, qu'ils se bouchent les yeux et s'exposent à la mort si tel est leur désir. Mais j'ai croisé son chemin, moi, à la créature invisible. Je sais qu'elle existe, et tôt ou tard, j'aurai sa peau.
Mais oui, monsieur Thierry, hein. Allez, on va prendre son petit cachet, et puis on va aller faire un grand dodo dans sa chambre avec des murs en mousse, hein. Et on va être bien sage, hein, sinon c'est la piqûre dans le cucu.
Chers auditeurs, vous l'aurez peut-être compris et retenu. Le cadavre de l'enchanteur Berlu fut confié par la milice au service des pompes funèbres tenues par nos amis Kevin et Gontran. Et ce fut Kevin qui s'occupa d'embaumer le décor aux frais de la municipalité. Et alors qu'il dévêtissait l'odorante dépouille, quelque chose attira irrémédiablement le regard de notre ami Croque-Mort. Le vieux druide portait autour du cou un étrange talisman. Il ne semblait pas particulièrement de grande valeur, mais cet objet en métal sombre, en forme de cristal, long et lisse mais anguleux aux extrémités, et marqué d'un étrange symbole ancien, fascina notre paysan reconverti. Kevin regarda à gauche, et il ne vit que le mur qui blanchoyait, ainsi que le poil qui rougeoyait. Il regarda ensuite à droite, et il ne vit que la fenêtre qui bleutoyait, entourée de meubles immobiles. En somme, aucun témoin. Kevin se saisit donc de l'objet, le chassa du cou de son défunt propriétaire et se l'accapara. Cet objet, étrange comme, chargé d'une aura obscure et envoûtante, oui, cet objet obsédait notre pauvre Kevin.